Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est deux check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendue enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life, choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description.
Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on va parler vélo et on va parler peut-être de l'élu. Hein. On va avoir on va avoir l'avis de Steve. J'ai la chance de recevoir Steve avec nous. Donc Steve, je te laisse te présenter dans un second temps. Juste, je fais un petit sommaire au début. On va parler donc du coup de Paul Sexas. On va analyser un petit peu sa performance de ce week-end et comparer ça aussi à ce qui s'est fait déjà par le passé. On va notamment voir par rapport à Remco, Pogacar, est-ce qu'il est un petit peu sur dans les bons timings en termes de carrière, est-ce qu'il est en avance, en retard. Donc on a la chance de recevoir Steve. Merci déjà, hein. Je te laisse te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, mais je pense que tout le monde te connaît depuis ta super apparition dans Netflix notamment et le super travail que tu fais à Eurosport.
Bah écoute, merci de m'avoir invité. C'est vrai que j'aime bien répondre en général favorablement aux différentes interventions de podcast. Alors oui, bah je m'appelle Steve Chenel, je suis consultant Eurosport depuis 8 ans, mais j'ai aussi et surtout été coureur professionnel pendant 10 ans, entre 2007 et 2016, oui c'est ça, 10 ans. J'ai eu une carrière avant et après également ma carrière professionnelle, ce qui m'a amené à participer à 20 championnats du monde de cyclocross. Et puis j'ai aussi été manager d'une équipe qui s'appelait le Cross Team. Donc voilà, j'ai touché un petit peu tous les métiers dans le monde du cyclisme.
Et là, j'ai vu que tu avais lancé un podcast récemment. Là, j'ai vu ça sur ton Instagram. Tu peux nous en dire plus?
Oui, alors c'est vrai que ça faisait quelques années qu'on s'amusait à faire des petits podcasts avec nos confrères de Saderail par exemple ou autres, où on parlait de l'actualité cyclocross, eux, ou avec mon carnet d'adresses, j'invitais des coureurs pour parler des différents week-ends de course. Et là, on a décidé de le faire en collaboration avec Eurosport d'ailleurs, qui va reprendre quelques extraits à chaque fois. Ça s'appelle Bac à sable, donc c'est tous les lundis soirs sur Instagram à 20h, où on parle de l'actu du week-end avec à chaque fois un invité tourné vers le cyclocross. Donc ouais, on s'éclate et on profite du temps libre pour parler vélo.
Eh ben super. Mais là, on rebondit par rapport à justement Paul Sexas et son podium de ce week-end au championnat d'Europe. On voulait faire donc une première partie plutôt sur ce qu'il avait fait en junior. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement de son palmarès? C'est vrai que moi, je suis le vélo, mais toi, tu es vraiment dedans. Est-ce que déjà à son âge, on commençait à parler de lui? Est-ce que c'est arrivé justement plus il y a une année ou deux années, ou est-ce que ça fait quand même plusieurs années où le nom de Paul Sexas ressort?
Non, c'est vrai que déjà chez les juniors, il avait ce talent indéniable. Il a été champion de France de cyclocross, donc en termes d'explosivité, durant la période hivernale, on savait que c'était un tout bon. Et puis sur route, il a été chercher aussi des performances de haute voltige. Après, on sait aussi que la catégorie junior, elle est toujours un petit peu compliquée dans la mesure où on a des coureurs qui sont déjà à maturité, qui ont déjà de la barbe, voilà, qui font 1m85, qui sont déjà formés comme des adultes de 25 ou 30 ans. Et à l'inverse, on a des jeunes coureurs qui sont pas forcément bien développés, qui sont un petit peu enrobés. À l'image d'un Remco Evenepoel. Par le passé, un Remco Evenepoel, lorsqu'il était junior, on sentait qu'il sortait du foot, il avait pas le muscle très saillant, comme on dit, il était un petit peu enrobé, on voyait qu'il était en surpoids et malgré tout, il gagnait. Et c'est vrai que du côté de Paul Sexas, on a capté que c'était un diamant, ça c'est évident, mais il fallait voir lorsqu'on passait dans la catégorie supérieure. Alors la catégorie supérieure, il y est arrivé très très vite, puisque c'est cette année seulement qu'il a intégré le World Tour. Il a été champion du monde de chrono sur sa dernière saison junior. On sait que pour être champion du monde de chrono, faut développer des grosses caractéristiques, avoir du volume, comme on dit, hein, d'être capable de tenir 30 minutes, un petit peu plus, à une allure ultra soutenue. Donc voilà, le diamant, on l'a. Maintenant, il fallait voir comment on allait construire ce diamant et surtout comment il allait dans l'année évoluer. Et c'est vrai que je fais partie de ceux qui étaient très contents de voir qu'on avait un diamant à l'état brut, mais voir comment on allait le gérer. Et cette année, je trouve que sa formation à l'équipe de France l'a géré à la perfection. Ouais, je pense qu'on peut se mettre à rêver de Paul Sexas, vainqueur de grandes classiques. Et contrairement à beaucoup de suiveurs, je vais pas parler du Tour, parce que le Tour, en fait, c'est vraiment nous les Français hein, qui voyons que cette course comme la plus grande course au monde. Mais on peut faire une très 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 belle carrière sans pour autant gagner le Tour ou faire le Tour. S'il gagne Liège-Bastogne-Liège, Milan-San Remo, le Tour de Lombardie, s'il gagne des Tours de Suisse ou si un jour il devient champion du monde, je pense que sa carrière serait déjà merveilleuse.
On en parlera après par la suite pour le futur. Et juste pour revenir à sa période junior, donc tu l'as dit, champion de France de cyclocross, aussi très fort sur contre-la-montre. C'est quoi les caractéristiques qu'il avait du coup et qu'il a, si tu devais décrire un peu ce style de coureur? On voit aussi qu'en descente, c'est quand même solide. Il a l'air complet. Est-ce qu'il y a des points forts, des points faibles déjà que tu arrives à percevoir chez lui? Ou c'est encore
Déjà,
trop tôt?
effectivement, son point fort, c'est de ne pas avoir de points faibles. On sait que chaque coureur a forcément quelque chose qu'il n'apprécie pas forcément. Ça peut être une pointe de vitesse, ça peut être la partie technique, les descentes, ça peut être le placement. Dans la catégorie junior, Paul était très fort contre la montre. On sait que le contre la montre, c'est pas vraiment une discipline que nous, Français, on apprécie. Et c'est souvent là qu'on perd du temps sur les grands tours, que ce soit les David Godu, par exemple, ou encore les Thibaut Pinot par le passé, et autres. C'est souvent contre la montre qu'on pêchait. Et là, Paul, il a été chercher, ce titre de champion du monde. Donc, clairement, ça déjà, c'est un gros point fort, parce que contre la montre, c'est là où on peut faire des différences ou combler des petits écarts. Ensuite, une pointe de vitesse, il l'a. Il a un bon punch, il en a fait en cyclocross, il ressort très vite des virages, donc être capable d'aller chercher quelques secondes de bonification ou faire les sprints au sommet des étapes de montagne, c'est quelque chose d'important. Et puis techniquement, comme je l'ai dit, il vient du cyclocross, donc peut-être que son gros atout, c'est de pas avoir de points faibles. On sait que pour gagner un grand tour ou pour être fort sur une classique, par exemple, on va prendre Liège-Bastogne-Liège. Liège-Bastogne-Liège, c'est quoi? C'est être très très bien placé avant, par exemple, la Côte de la Redoute. Donc, faut être dans les 20 premiers. Donc, faut savoir rouler vite sur le plat, être positionné dans les premières positions. Donc, ça demande deux qualités différentes. Ensuite, il faut être un pur grimpeur. C'est le cas également. Et derrière, il faut être capable de rouler vite s'il sort tout seul. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que son gros point fort, en fait, c'est d'être bon partout.
Est-ce qu'il y a un petit point faible quand même, un petit côté un peu négatif, peut-être en très haute montagne, on l'a pas peut-être assez vu, peut-être autour de l'avenir un petit peu, on l'a vu, il gagne pas les deux étapes, je crois que c'est un Belge qui gagne, il me semble. Peut-être mieux encore un point d'interrogation peut-être sur la haute montagne ou quand même c'est validé déjà.
Oui, je pense qu'effectivement, il y a encore des choses qu'on n'a pas vraiment explorées chez Paul, notamment, effectivement, tu as raison de le souligner, les étapes à plus de 2000 mètres d'altitude, on ne sait pas comment son corps va réagir, voire également sur 3 semaines de course, parce que tout le monde attend de voir un Paul Sexas qui brille. Il a brillé sur des courses d'un jour, il a brillé sur le Tour de l'Avenir, ça ne dure pas 3 semaines. On sait qu'il y a des coureurs qui passaient 14 ou 15 jours de course, voilà, ne sont plus en capacité de bien récupérer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a des outils incroyables, hein, que ce soit la cryo, le massage, enfin bref, on a tout ce qu'il faut pour bien récupérer et accumuler les jours de course, mais on a des organismes qui sont faits pour ça et d'autres beaucoup moins. Honnêtement, aujourd'hui, je vois pas de grosses lacunes, peut-être. J'ai envie de dire ce côté un petit peu nonchalant. On a l'impression que c'est un coureur justement qui est très calme. Ça pourrait être un point positif, mais des fois dans le cyclisme, il faut savoir sur 30 secondes, une minute, être un tueur, être là et pas être passif, être actif. Et j'ai l'impression que Paul, c'est quelqu'un qui a des choses bien carrées en tête, mais il est encore très jeune et c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu non plus sur des séquences très très courtes où pendant 3 minutes, il doit être là dans les 5 premiers, sinon sa course est foutue.
Oui, bah après toujours, que les gens ne nous critiquent pas, on parle de Paul, justement le but c'est d'apporter le maximum d'informations et on voit qu'il est très mature pour son âge, c'est assez impressionnant, on est unanime pour dire que on a de la chance de l'avoir et d'avoir un Français de ce niveau. Et en termes justement de la formation, est-ce que tu as eu des informations, comment ça s'est construit, est-ce qu'il a eu un coach, est-ce qu'il a eu une équipe aussi autour de lui, est-ce que c'est vraiment la formation à la française, est-ce que tu as eu des infos vis-à-vis de ça?
Ouais, alors déjà, ce qui est assez exceptionnel, justement, c'est que on a connu sur les dernières années des coureurs qui marchaient très très bien, notamment Julien Alaphilippe. Mais Julien Alaphilippe, il a eu un parcours particulier puisqu'il est parti en Belgique hein, après l'armée de terre pour se former. C'est chez Patrick Lefebvre. Ensuite, on a d'autres coureurs. Hein. Là aujourd'hui, on a Paul Magnier qui sprint, qui va vite, qui est également à l'étranger. Christophe Laporte chez Visma. On a l'impression qu'on n'avait pas cette touche française où on était incapable de peut-être de former un très très bon coureur ou en tout cas il nous échappait hein, des doigts. Paul Seixas, c'est clairement un coureur à la française. Il a été formé du côté de Lyon. Ensuite, il est resté dans les clubs français. L'équipe de France l'a très, très bien drivé. Et aujourd'hui, il court pour une équipe française, Décathlon AG2R, là en 2025. Donc, non, non, il a suivi un cursus vraiment français. On n'est pas plus con que les autres. On est, je pense, même par moments, peut-être un petit peu trop précautionneux. On a envie, des fois, hein, de conserver nos athlètes, qu'ils soient dans... un petit peu dans du coton, et c'est aussi pour ça que certains coureurs ont envie de découvrir un petit peu l'étranger. Mais du côté de chez Paul, non, non, on est très très bien formés. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que voilà, on a de quoi faire en France. Simplement, il faut aussi s'en persuader, et ce sera peut-être le cas avec Paul. D'ailleurs, voilà, petite parenthèse, on a énormément de coureurs étrangers qui courent en France. Il faut s'imaginer qu'au niveau amateur, aujourd'hui, toutes les plus grandes formations amateurs en DN1, que ce soit Aix-en-Provence, le Vendée-U, le CC Etup à Dijon, un petit peu partout à travers la France, on a beaucoup de coureurs étrangers qui viennent en France parce que notre système de formation est très très bon. Les frères Yates sont passés par la France, il y en a plein qui sont passés par là. Donc non, Paul fait partie tout simplement de ce cru, de ces coureurs qui arrivent à sortir un petit peu du lot parce qu'à la base, ils ont un gros talent. Parce qu'ils sont bien encadrés, parce qu'ils ont le mental et ils ont les étoiles alignées pour, je pense, en tout cas, et j'espère faire une très grande carrière, et c'est vraiment tout le mal que je lui souhaite. Maintenant, voilà, ça tombe très bien que tu en aies parlé avant. Il va y avoir beaucoup d'enflammage autour de Paul. Mais je rappelle, il a juste 19 ans. Il est peut-être pas en fin de croissance. Il y a peut-être encore beaucoup de choses qui vont se passer dans son organisme. J'adore la NBA. Je vois Victor Wembanyama qui continue à grandir. Donc, on n'a encore pas vu le grand Victor. Ce sera peut-être lui le nouveau Jordan. Ce sera peut-être lui le nouveau Bernardino. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ils sont pas à l'abri, voilà, d'avoir un organisme qui change complètement, d'avoir un cerveau qui vrille. Il faut avoir le côté mental pour ça. Aujourd'hui, il a l'air de l'avoir. Et c'est aussi peut-être à nous, suiveurs, aux journalistes et à tous ceux qui sont autour de lui, aussi de le protéger, parce qu'à 19 ans, on n'a pas la même maturité qu'un coureur de 25 ans qui a déjà 5 ou 6 ans chez les pros.
Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai vu une rumeur. Apparemment, UAE était venu le chercher il y a quelques années. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Ah, je ne serais pas surpris que UAE ait demandé combien coûtait Paul Seixas pour essayer de l'acheter. Et évidemment, ça fait partie du jeu. Et c'est là aujourd'hui où effectivement il faut avoir un bon entourage. Je fais pas partie de ceux qui prônent effectivement le fait d'être accompagné à 15 ou 16 ans, mais lorsque vous avez 16 ou 17 ans, que vous avez des équipes comme UAE qui arrivent avec un carnet de chèques et que vous venez d'une famille comme je l'ai été pauvre et où finalement vous pouvez sortir un petit peu toute votre famille de la merde parce que le vélo reste un sport très très cher. Bah ouais, il faut avoir la maturité nécessaire, il faut avoir l'encadrement nécessaire pour dire non, c'est pas pour moi. Je préfère rester dans ma logique de performance, de monter les marches petit à petit. De toute façon, faut pas se voiler. Hein. Là, on est début octobre. Faut s'imaginer que chez Decathlon AG2R, je pense que le téléphone a déjà sonné. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent savoir combien on peut racheter le contrat de Paul Seixas. Hein.
Et surtout qu'il y a quand même un sacré projet qui s'est monté dans Decathlon, qui maintenant deviendra Decathlon CMA CGM. On parle d'un budget de 40 millions, je crois, presque fois 2. Est-ce que tu penses que justement cette équipe Decathlon, elle va grandir, elle va évoluer, elle va s'appuyer sur Paul? Est-ce que c'est un bon choix de rester chez Decathlon?
Ouais, je pense que c'est une équipe en tout cas qui, au départ, est très très structurée avec ce qu'avait construit Vincent Lavenue. Et c'est vrai qu'il s'est fait un petit peu évincer l'année passée. Et c'est désormais une vraie société, hein, une vraie envie de construire qui a un petit peu cassé tout le système familial, entre guillemets, qu'avait mis en place Vincent Lavenue et toutes ses équipes. Mais avec l'apport de Van Riesel, en termes de matériel, aujourd'hui, on sent qu'il y a une vraie poussée pour aller chercher le meilleur matériel. On sent qu'il s'entoure des meilleurs. On va chercher également du staff étranger, des coureurs étrangers qui ont de l'expérience, notamment Tish Benoit, par exemple, qui quitte Visma, quand même l'une des meilleures équipes mondiales, pour rejoindre ce projet. Donc, je pense que il fait partie d'une construction. Avec peut-être, comme je l'explique toujours, voilà, une construction de cathédrale. L'apogée de la cathédrale, c'est quand on pose la croix au-dessus. Ben, je crois que la croix, c'est Paul. Et on va construire autour de lui pour mettre une belle croix au-dessus et que tout le monde vienne visiter cette cathédrale. Ouais.
Mais super. Est-ce qu'on pourrait revenir, peut-être, là, on a parlé de ça, donc de Junior. Ce qu'il a vraiment fait découvrir chez le grand public, c'est l'année dernière et cette année. On voit notamment le critérium qu'il a fait. Enfin, moi, c'est vraiment à ce moment-là où j'en ai vraiment entendu parler. Est-ce que tu pourrais justement nous reparler de ce critérium? Tu as dû le vivre en plus de l'intérieur. Qu'est-ce que tu as vu? Comment tu l'as senti justement cette période-là et l'émergence du phénomène Paul Seixas?
Ouais, alors c'est vrai que c'était assez fou parce que c'était sa première course à étapes World Tour avec en tout cas les cadors du peloton professionnel. Et j'étais au commentaire Eurosport et tous les jours avec mon acolyte Jackie Durand et avec le journaliste, on s'attendait à ce qu'on voit Paul Sexas à un moment donné exploser. On rappelle que lorsque le Dauphiné s'est couru au mois de juin, Paul sortait des juniors, il avait 6 mois de coureur professionnel dans les jambes et que les courses qu'il avait effectuées l'année avant, on était sur des distances de 100 à 150 bornes maximum. Et là, on était sur des étapes beaucoup plus longues, avec beaucoup de dénivelé, avec même une étape, je crois, qui arrivait à plus de 2000 mètres. Bref, on s'attendait à ce que Sexas, à un moment donné, explose, ce qui aurait été 99,9% du temps normal et logique. Et à aucun moment, on aurait été déçu de par cette contre-performance. On doit passer par ce genre de défaite. Et lui, non. Lui, non. Il a été constant tout au long de la semaine. Il a fait preuve de ténacité, de régularité assez incroyable pour son âge. Donc, oui, c'est vrai que pour le coup, le jour du Dauphiné, lorsque ça se termine et qu'il termine dans les 10 premiers du classement général, là, on se dit, on tient tout bon. On tient tout bon. C'est peut-être le coup du j'ai rien à perdre, la course fait que 7 jours, donc du coup je m'accroche au maximum, j'ai zéro pression, tous mes directeurs sportifs me disent donne ton mieux et tu verras. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne le mieux d'ailleurs. C'est assez incroyable que cela puisse paraître, mais c'est là qu'on a le moins de pression, là où on est le moins tendu, que c'est là que ça fonctionne. Et effectivement, derrière, on attendait un petit peu de la part de Paul une confirmation. Et la confirmation, bon, on l'a eu en fin de saison. Ça, c'est incroyable, ouais.
Là, au Critérium, je crois qu'il fait 8e. Je crois que c'est la meilleure performance pour un jeune au Critérium. Hein. C'est quand même exceptionnel. Après, il y a ce Tour de l'Avenir aussi qu'il gagne. Et là, il y a ces championnats d'Europe. Comment tu l'as vécu, ce podium? J'ai l'impression que même c'était mérité au vu de la course. Hein. J'ai l'impression que c'était le seul vraiment à pouvoir accrocher le wagon avec Poggi et Remco devant. Comment tu as vécu ça aussi? Tu étais en fusion, non? Tu étais en feu?
J'étais fou devant ma télé. Alors après, c'est vrai qu'il y a une semaine, on rappelle quand même qu'il a terminé les mondiaux de Kigali sur une course de 270 km, extra compliquée pour avoir effectué à plusieurs reprises hein, les monuments du cyclisme, hein, Milan-San Remo ou Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres. Des courses de plus de 250 km, ça n'a rien à voir avec les courses de 200 km. C'est vrai que ça peut paraître compliqué comme ça, on a l'impression que 60 bornes, ça va pas changer grand-chose. Mais si vous parlez à un marathonien, par exemple, qui va vous dire tu fais un marathon à 42 km, à 3,30 au mille et faire 50 bornes, les 8 km de plus, ils vont être énormissimes. En vélo, cette marche, elle est à peu près pareille. Il faut s'imaginer que ça se court différemment. Notre organisme, à un moment donné, est dans une certaine lassitude, on perd certaines capacités. Que l'on a au départ, notamment l'explosivité, il y a plein de choses qui se passent dans notre corps. Et c'est vrai que moi, pour être totalement franc, j'étais déjà sur le cul de voir Paul terminer ce championnat du monde à Kigali. Pour moi, c'était déjà un énorme gap. Et on allait voir, finalement, sur une course de 200 bornes, un petit peu plus ouverte, sur les championnats d'Europe, comment il allait se passer, comment il allait récupérer, finalement, de ce voyage, là où il était parti, lui, quasiment 2 semaines, hein, là-bas, à Kigali, puisqu'il a fait les chronos et les chronos mixtes. Et effectivement, ce week-end, pour moi, il a été chercher une performance. Ouais, j'aurais pas mis 1 euro hein, sur lui, terminer podium. Je pense qu'il, sincèrement, je pense qu'il allait exploser. Et il a tenté de suivre, comme un coureur en confiance. La première attaque pardon, de Poggi et Remco à 70 bornes de l'arrivée. Là, je suis pas surpris. Et derrière, pour moi, il doit exploser. Et puis, bah non, il n'explose pas. Il fait partie des grands. Et il a déjà un gros volume, comme on dit. Il est capable d'encaisser les charges d'entraînement. Il est capable d'encaisser déjà les attaques. Capable de poursuivre encore son effort. Et derrière, lorsqu'il a la bagarre pour la médaille, en France, face à tout le public, qui le poussait, qui l'encourageait, faire péter Scaroni comme il l'a fait. On a eu l'impression que c'était l'attaque d'un vieux briscard qui savait que de toute façon, s'il arrivait avec lui, il était mort au sprint. Donc il a tout donné, il a tout mis. Non, non, ce week-end, il a été incroyable. En l'espace de 15 jours pour moi, même pas 15 jours, en l'espace de 8 jours, il a passé une marche incroyable, celle d'être coureur capable de jouer sur les courses de plus de 250 km et en allant chercher cette médaille, capable de jouer sur les plus grandes courses du calendrier international.
Je vais me faire l'avocat du diable, hein, c'est pour essayer de tempérer un petit peu tout ça. Mais est-ce que ces championnats d'Europe, justement, n'en fait pas trop? Est-ce que on a vu Vingegaard lâcher très tôt? Est-ce qu'en fait c'était un réel, est-ce qu'il y avait un plateau qui était très relevé, et est-ce que les cyclistes avaient vraiment envie de faire une perf, ou est-ce qu'ils étaient là parce qu'il fallait être là? J'exagère bien
Ouais,
sûr, mais c'est pour avoir ton avis sur la question.
Non, mais c'est quand même une très très bonne question et c'est là où justement il a été énorme. On a des coureurs avec lui qui s'appellent Mathias Skelmose qui sont en pleine possession de leurs moyens. On a des Juan Ayuso qui sont quand même des coureurs qui ont gagné un grand tour, qui font partie du top gratin mondial. On a Remco et Pogacar qui sont là. Non, justement, c'était pas un championnat d'Europe au rabais, malheureusement, que l'on a déjà eu avec des courses où c'était plus pour les sprinteurs et où certains coureurs boudaient l'organisation. Là, on était vraiment sur effectivement une vraie belle start list avec pour moi quasiment les trois meilleurs coureurs du monde avec Tadej, Remco et Jonas, même si Vingegaard est plus un coureur de grand tour que de course d'un jour. Mais non, non, c'était loin d'être un championnat d'Europe au rabais. Et effectivement, c'est là où justement j'ai trouvé qu'il avait été énorme, c'est que il y avait Pogacar et Remco et il a tenté de les suivre. Ça montre le caractère du jeune.
Et justement, si on devait le comparer un petit peu ses performances à son âge versus d'autres, par exemple les plus connus, je pense qu'en ce moment c'est Pogacar et Remco qui font les meilleures performances. Est-ce que tu as réussi à comparer un petit peu? Est-ce qu'il était en avance, en retard sur leur temps? Est-ce qu'on a des éléments pour comparer un petit peu, même si bien sûr ça veut rien dire pour le futur?
Ouais, alors moi je fais partie de ceux qui aiment pas comparer justement, donc je compare très très peu. Pour moi, chaque athlète est différent et d'ailleurs c'est vrai qu'on se fait un malin plaisir à comparer Pogacar avec Merckx par exemple, alors que il y a 60 ans, on n'avait pas du tout les mêmes vélos, il n'y avait pas la même adversité, il y avait que 8 pays qui faisaient du vélo. Enfin, je trouve que c'est toujours très difficile de comparer et même là très difficile de comparer malgré qu'on soit quasiment sur la même génération parce que voilà, chacun a un passif différent, chaque athlète est différent, chacun a ses propres caractéristiques et comme je dis chacun doit avoir sa propre identité. Ce qui est sûr, c'est que d'une manière aussi précoce, d'avoir un coureur français capable de jouer comme ça avec un Pogacar, un coureur qu'on n'a pas vu depuis au moins 50 ans, je pense, clairement on l'a jamais vu. Clairement on l'a jamais vu. Alors ça veut pas dire que il va gagner le Tour 8 fois, ça veut pas dire qu'il sera champion du monde 14 fois. Simplement, il nous montre, en tout cas à 19 ans, des gages de qualité. Ça montre que le diamant est magnifique, qu'il y a des carats à tout va. Maintenant, pour qu'un diamant soit beau sur une bague, il faut qu'il soit bien taillé, il faut qu'il soit bien mis, il faut qu'il soit bien poli, bien lustré. Et c'est là tout le travail de sa formation et de tout son entourage. Donc pour moi, aujourd'hui, voilà, on peut imaginer de très belles choses, mais il faut pour moi attendre déjà 2026. Et c'est vraiment, je pense, en 2027 que là, on pourra vraiment dire, OK, là, il est fait pour les grands tours, là, il est fait pour les classiques, là, on peut programmer tant ou tant d'années à très très haut niveau, parce qu'il y a aussi le facteur mental. Et aujourd'hui, un garçon comme Paul Sexas, ça fait peut-être 4 ans qu'il vit, qu'il dort vélo, et qu'est-ce qu'il dit qu'à 22 ans, il n'aura pas envie de bouffer des raclettes à tout va, d'aller en boîte de nuit, de sortir à gogo. Donc, on ne sait pas de quoi son avenir sera fait, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un coureur qui, en tout cas, nous montre que génétiquement, il a tout ce qu'il faut, et mentalement, il a tout ce qu'il faut.
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Oui, c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'on l'a vu notamment Pogacar hein, qui, pendant ce Tour de France-là, avait à la fin une petite lassitude un petit peu mentale, on avait l'impression. Donc peut-être que ça peut arriver aussi à tous les coureurs. Il me semble que Pogacar, c'est à 21 ans qu'il fait son premier podium sur le Tour de France, il me semble. C'est quand même assez tôt. Et Remco, je ne sais pas quel âge.
Ouais, 20, pareil, Remco, c'est 20 ans. Hein. Ouais, en fait, on est sur des coureurs qui sont hors normes, effectivement, qui vont chercher des performances sur 3 semaines assez incroyables. Mais ça, c'est la nouvelle génération, parce que pour revenir un petit peu dans le passé, c'est vrai que à 20 ans, ne serait-ce qu'il y a 15 ans, à 20 ans, on te laissait le temps. On ne te mettait pas sur les grands tours parce qu'on avait peur de te cramer. Ce qui était, à mon sens, complètement logique, parce qu'on n'avait pas tous les éléments de récupération, on n'avait pas toutes les prises de sang, on n'avait pas plein de choses pour savoir comment réagissait notre organisme. Or, il s'avère aujourd'hui qu'à 20 ans, si on lance un coureur dans le grand bain, c'est qu'on sait qu'il a le volume nécessaire et que son corps est capable d'encaisser la charge physique et mentale pour faire un grand tour, parce que ça fait déjà quelques années qu'il le prépare. Or, il y a 15 ans, un cadet, il faisait 6 à 8 heures de vélo par semaine et on lui disait tu vas marcher petit à petit jusqu'à 25 ans, tu vas augmenter tes charges d'entraînement. Aujourd'hui, non, à 15 ans, un coureur, on lui fait faire 15-20 heures de vélo semaine avec les éléments qui vont bien pour récupérer. Et c'est là où justement le vélo est différent et c'est là où justement il faut un mental. À 15 ans, 16 ans, difficile de faire 15-20 heures de vélo par semaine quand on va à l'école, quand on a les parents qu'il faut qu'ils t'amènent tous les week-ends en course, qu'il faut payer un kiné, un ostéo, parce que y a pas que ça, qu'il faut bouffer sainement, parce qu'à 15 ans, on a envie d'aller au McDo sans arrêt ou de se faire des tacos avec les potes, alors qu'on sait très bien que c'est de la merde. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, Paul Sexas fait partie de ce petit cercle de coureurs qui ont tout ce qu'il faut pour s'éclater dans leur discipline. Que ce n'est pas des contraintes de faire attention à ce qu'ils bouffent, de ne pas sortir, de faire des étirements, de prendre soin de leur organisme, et peut-être d'aller chercher effectivement un podium sur un grand tour à 20 ans. On trouvait ça extraordinaire il y a 10 ans. Remco l'a fait, Tadej l'a fait, et en fait, il ne faudra pas être surpris que Sexas le fasse dans les 2-3 prochaines années, parce que finalement, c'est la suite logique du travail effectué depuis qu'ils ont 14 ou 15 ans.
Et justement, pour l'avenir, qu'est-ce que là, je te challenger un petit peu à toi, Steve, désolé, mais comment tu imaginerais un peu la suite de sa carrière si tu étais justement un petit peu son coach? Tu l'enverrais sur quoi? Est-ce que tu l'enverrais déjà sur un grand tour, peut-être une Vuelta ou un Giro pour avoir moins de pression médiatique? Est-ce que tu le ferais plus faire des classiques, plus des courses d'une semaine? Comment toi, tu verrais un petit peu son évolution logique?
Alors déjà, pour être tout à fait franc, quand on a ce genre de diamant, on ne peut pas s'inventer bijoutier. Donc déjà, j'essayerais de trouver les bonnes personnes pour l'encadrer. Moi, si j'étais vraiment son manager ou si j'étais ses parents, moi, j'aurais envie qu'il soit accompagné des meilleurs, du meilleur nutritionniste. J'irai le chercher, je le paierai avec mes fonds, avec mon équipe, pour que tout ce qu'il mange, voilà, ce soit quelque chose de plaisir, mais que son organisme soit jamais carencé. Je ferai un maximum de choses autour de lui pour qu'il soit avec les meilleures personnes et des personnes qui soient saines autour de lui. Après, mon envie serait de le voir forcément gagner sur tous les terrains, en tant que Français, d'être champion du monde, d'être parmi les meilleurs sur le Tour de France. Mais aujourd'hui, vraiment, moi, si j'étais le manager de Decathlon, si j'étais vraiment dans son entourage, je lui dirais, s'il te plaît, entoure-toi. Entoure-toi des bonnes personnes, parce que malheureusement, ça va graviter autour de lui. Et il y a trop de personnes qui vont vouloir profiter de cette Sexasmania pour tirer un petit peu profit de sa nonchalance, de sa gentillesse. Et pour moi, aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est qu'il soit entouré par les bonnes personnes.
Parce que là, toi qui étais dans ce milieu-là, qui c'est qui choisit les courses justement? C'est Paul qui va choisir ses courses, ou est-ce que c'est plutôt l'équipe qui va choisir les courses sur lesquelles il va participer? Comment ça se passe?
Non, c'est vrai que là, il va y avoir de grosses discussions, hein, avec notamment les directeurs sportifs qui vont forcément se retrouver au mois de décembre pour établir un programme pour Paul. Après, lui, forcément, aura quand même malgré tout son mot à dire. Mais j'ai envie de dire, il fait partie d'une structure qui l'emploie et c'est l'employeur qui décide. Si dès l'année prochaine, on se décide à le mettre sur les routes du Tour de France, Paul Sexas, il a beau s'appeler Paul Sexas, mec, si on te dit tu vas au Tour de France, tu vas au Tour de France, même si au plus profond de toi, tu as l'intime conviction que c'est une connerie, que tu es trop jeune et que tu penses que tu vas pas résister à la pression, mais c'est ton employeur qui décide, c'est lui qui te paye. Maintenant, comme je l'ai dit, je pense qu'il est dans une structure qui a l'air intelligente, qui a l'air d'être plutôt structurée et qui a l'air d'avancer dans le bon sens. Maintenant, attention, attention, ne pas le faire franchir deux marches par deux marches. Pour l'instant, il franchit des très grandes marches. Mais ça ne veut pas dire qu'il va continuer sur cette lancée. Et pour moi, le plus beau des grands tours à découvrir pour lui, ce serait la Volta. Ça, c'est mon intime conviction. Steve Chenel, le consultant, voilà, par rapport à ce que j'ai vécu, la Volta, c'est un grand tour qui est génial à découvrir, de voir comment va se comporter son corps sur 3 semaines. Et puis surtout lui, comment il va être sur 3 semaines en termes de concentration.
En plus, la Vuelta, tu arrives avec des gens qui ont souvent fait le Tour de France, qui sont un peu plus émoussés, un peu moins de fraîcheur, alors que le Giro, tu arrives vraiment avec des gens qui sont frais, ça peut aussi pas avoir un impact, non? Après, la Vuelta, on sait que
Complètement.
ça monte énormément, enfin, le parcours est très difficile.
De toute façon, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'on a le Giro qui veut sortir des sentiers battus, qui veut sortir des 2 autres grands tours en proposant un circuit toujours ultra compliqué. Le Giro, c'est le grand tour le plus dur. En plus, on est au mois de mai, on a souvent du temps de merde. On peut même avoir la neige. Enfin bref, c'est un grand tour qui est très très dur. Je l'ai fait qu'une fois, je l'ai même pas fini d'ailleurs. Et j'avais pas envie d'y retourner. Alors que la Vuelta, on est au mois de septembre, il fait plutôt bon. Même en Espagne, c'est souvent génial. C'est même à l'espagnol, donc ça veut dire que y a pas de stress, hein, c'est vraiment cool. Et effectivement, ça reste le grand tour de fin de saison, là où il y a des opportunités, là où les étapes sont plutôt ouvertes, même si cette année on a eu des étapes très 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 difficiles, mais ça dépassait jamais 200 km. Donc oui, pour moi, c'est le premier grand tour à découvrir pour lui. Maintenant, je suis pas dans son équipe, je suis pas dans son entourage, je suis pas son entraîneur, ni son coach, ni son conseiller, mais voilà, si c'était mon fils, en tout cas, je lui conseillerais, en tant que papa et qu'ancien coureur pro, d'aller sur la Vuelta.
Et pour le Tour de France, t'as peur de quoi? T'as peur justement de la pression médiatique qu'il pourrait avoir, que les médias tomberaient sur lui, justement. Tu penses que il peut, si par admettons, il fait le Tour de France, parce que ben, Décathlon est obligé, on sait que c'est un événement qui est regardé, hyper médiatisé, et forcément, ben, financièrement, il faut mettre Paul Sexas. Est-ce que c'est pas aussi le rôle des médias d'être indulgent, de faire comprendre au grand public que ben, c'est son premier grand tour, c'est la première fois qu'il va courir 3 semaines? En fait, t'as peur que les médias soient. Si on ne le voit pas performant, on lui tombe dessus et on le fracasse, et que pour la suite de sa carrière, ça peut être difficile, ou c'est plus par rapport à, c'est par rapport vraiment à ça que tu as peur, ou est-ce que c'est plus le parcours qui te fait peur et l'intensité qu'il peut y avoir dedans?
Alors déjà, effectivement, c'est la première chose, et tu l'as très bien résumé avec toute l'attente des gens, du public, des sponsors, etc. Mais ça, voilà, la pression à 19 ans, on peut la gérer comme à 24 ans. Et c'est là où Thomas Vaucler a été très bon dans ses interviews. Il a dit, si c'est un coureur qui s'est résisté à la pression, c'est là qu'on verra si c'est un champion. Non, le tour, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que c'est une machine à laver. Première étape, kilomètre zéro, ça part deux fois plus vite, il y a des chutes de partout. C'est une course à part dans le calendrier international. C'est vraiment quelque chose. Il suffit de discuter avec tous ceux qui ont fait le tour. Moi, je l'ai jamais fait, mais je le vois quand je le commente ou quand je discute avec les coureurs. Faut s'imaginer que c'est un espèce de Paris-Roubaix tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a une pression du peloton, donc pour toujours rester positionné dans les premières positions, pour éviter toutes les chutes. Les enjeux pour chaque équipe sont décuplés. Un enjeu de Tour de France, c'est pas l'enjeu de la Vuelta et c'est pas l'enjeu du Giro. Et on a beau dire, non mais Paul, on te mettra pas la pression, c'est un petit peu tout le monde qui te la met, même au sein de ta propre structure. Pour moi, il faut y aller au Tour. Il y a pas de problème, il faudra y aller à un moment donné. Mais laissons déjà, en tout cas, le bénéfice de savoir comment tu vas te comporter sur 3 semaines, comment ça se court sur 3 semaines, comment tes équipiers, tu arrives à vivre avec eux sur 3 semaines, sur un autre grand tour. À l'image d'un coureur, voilà, qui ferait voilà, du 3000 mètres steeple, on va pas le mettre tout de suite au départ du championnat du monde. On va lui dire, fais un ou deux meetings, tu vas voir, ça court différemment, parce que les meetings, c'est plutôt régulier, il y a toujours un lièvre. Le jour des championnats du monde, tu verras, ça court différemment. Là, le tour, c'est une telle course à part, je pense qu'il faut se faire la main sur un autre grand tour. Après, ça peut être une pépite et on peut le lancer directement sur le tour. Il peut être victime d'une chute dès le troisième jour. Et après, c'est des freins, des blocages psychologiques qu'on a et qui restent très longtemps. Donc, je pense qu'il faut s'enlever le poids de se dire comment je vais fonctionner sur 3 semaines. Autant le faire sur la Volta. Et puis ensuite, aller sur le tour. Il a 19 ans, il a le temps. Il a largement le temps.
Et tu le vois comment, bah, en termes de cycliste? Est-ce que tu penses qu'il peut avoir plus un format sur 3 semaines, plus sur des classiques, plus sur du une semaine? J'ai l'impression qu'il peut être bon partout. C'est difficile à répondre, mais est-ce que déjà tu penses qu'il a cette capacité à gagner des classiques peut-être dans le futur?
Ouais, alors déjà, de ce qu'il nous a montré là, ces 2 dernières semaines entre Kigali et le championnat d'Europe, pour moi, oui, clairement, dans son palmarès, il devra y avoir un jour le Tour de Lombardie, il devra y avoir Liège-Bastogne-Liège, et pour moi, ça fait partie des deux courses qui correspondent parfaitement à ses qualités de puncher-grimpeur. Ça, c'est évident. Sur une semaine, on l'a vu, il a tenu la. On va dire, il a tenu la baraque sur le Tour de l'Avenir, même si le Tour de l'Avenir, voilà, ça reste une course avec que des espoirs par équipe nationale. C'est une course de jeunes, c'est encore différent. Mais je pense que sur des Paris-Nice, sur des courses comme le Tour du Pays Basque, oui, bien évidemment. Maintenant, la seule inconnue, effectivement, c'est sur 3 semaines. C'est cette capacité à maintenir un niveau de performance sur 3 semaines. Il roule vite contre la montre, donc là, il pourra faire des écarts ou éventuellement combler les écarts. En montagne, je pense qu'il n'a pas de lacune. Du moins pour le moment, sur ce qu'il nous a montré, il n'y a pas de lacune. Donc, ouais, je pense qu'il peut gagner partout, voire même sur éventuellement, comme Pogacar l'a fait, pourquoi pas sur un Tour des Flandres ou un Paris-Roubaix, parce que c'est vrai qu'il est très grand, très longiligne, il n'a pas l'air d'avoir trop de poids, hein, il doit faire à peine 60, 62 ou 63 kilos. Mais c'est un coureur qui est à droite sur le vélo, qui punche fort. Ouais, pour l'instant, moi, je lui mets vraiment pas de limite.
Tu le vois même gagner un championnat du monde sur chrono, par exemple, être champion du monde, tu
Ouais.
penses que c'est jouable?
Oui, parce qu'en plus, J'ai lu quelques interviews l'année dernière où il disait, après le championnat du monde de sa catégorie junior, où il disait, moi, je mets pas de lunettes parce qu'il s'est avéré. Non, je mets des lunettes plutôt que la visière parce qu'ils avaient fait des études en soufflerie qui montraient qu'il perdait du temps avec justement la visière par rapport aux lunettes, etc., etc. Donc, je pense qu'il est dans cette recherche perpétuelle du petit détail. Et ça, franchement, faut être patient et faut être passionné. Quand on te dit qu'il faut que tu ailles faire un après-midi complet à tourner sur un rouleau pour te faire gagner 1,5 watts parce qu'on va te réajuster l'épaule, à la fois avoir la fibre. Perso, je l'avais pas du tout. Faut être ultra patient et faut aimer ça. Et j'ai l'impression qu'il aime ça. Donc, tant mieux. Et oui, pourquoi pas un titre de champion du monde chrono également, ouais.
Nickel, tu penses que ça sera quand la prochaine course où on peut voir Paul peut-être dans un futur proche? Je pense que c'est pas encore là. C'est quoi, une petite trêve là? Comment ça se passe?
Oui, là évidemment, il va y avoir le Tour de Lombardie ce samedi, qui est le dernier monument de la saison. On peut imaginer, pourquoi pas, hein, le voir rentrer parmi les 5 premiers. Je pense que déjà, ce serait encore une fois assez énorme, hein, de continuer sur sa lancée. Puis après, non, cap sur 2026 maintenant. Je pense qu'il y aura un gros travail hivernal à faire, voir justement comment il va travailler cet hiver. Je pense qu'il va être sur à peu près les mêmes bases que l'année passée, avec peut-être, allez, 5 à, allez, 3, ouais, 5 à 7% de charge en plus en intensité et en volume, parce que j'imagine qu'on ne l'a pas bourriné comme un fou pour le début de saison. Et puis ouais, moi j'attends de le voir sur une première course importante. Allez, j'aurais presque envie de dire en début de saison, pourquoi pas sur un Tirreno Adriatico. Ouais.
Et après, on a eu aussi Jordan dans le podcast 1000%. On a une équipe de France qui est sympa. On a Sivakov aussi. Qu'est-ce que tu en penses justement dans le futur de cette équipe de France et des Français en règle générale pour l'année à venir? Un petit pronostic. Est-ce que tu vois des belles choses?
Ouais, non, je vois des très très belles choses. Il y a des quoi, justement, comme Jordan, qui progressent encore et toujours, qui ont pris leur temps, qui sont passés justement à travers les radars, mais qui sont des gros potentiels à maturité tardive, à l'image aussi d'un Nicolas Prodhomme qu'on a vu là sur cette année exploser aux yeux du grand public, alors que c'est un coureur qui, non, prend son temps, franchit vraiment les marches après marches. Oui, on a des coureurs d'expérience, les Pavel Sivakov, les Julien Alaphilippe, c'est des coureurs, des vrais capitaines de route, des Julien Bernard, qui sont très très importants dans un groupe. Et puis on n'oublie pas quand même que le sélectionneur national Thomas Vaucler, moi j'ai eu la chance de faire 2 saisons au sein de Bouygues Télécom avec Thomas, c'est un vrai mec, quoi. C'est un mec en or, il faut l'écouter. Quand il parle, il dit pas. Il adore raconter des conneries, mais quand il parle sur le vélo, c'est un sniper. Moi, j'adore ce mec et je pense qu'il fait énormément de bien à l'équipe de France. Et je pense que les jeunes doivent s'inspirer d'un coureur comme Thomas parce qu'il a ce truc en plus. Et en plus, il s'est évolué avec son temps. Donc, non, j'ai une envie de voir l'équipe de France encore briller, comme j'ai vibré quand j'ai vu Julien devenir champion du monde, quand j'ai vu Christophe et Valentin terminer deuxième et troisième des JO. Je crois en cette équipe de France et je crois en notre système français de formation.
Et ouais, c'est vrai que Thomas Vaucler, il a un sens de la course aussi qui est impressionnant. Enfin,
Incroyable.
c'est beau à voir, franchement. Mais on
Il
l'a
est
vu,
top.
même pour les JO, ce qu'il arrive à faire, c'est parce que c'est pas lui qui est sur le vélo, mais je pense qu'il y a une partie aussi du travail qui est grâce à lui. Mais en tout cas, un grand merci. Est-ce que tu veux peut-être conclure par peut-être adoucir un petit peu la pression sur Paul? Qu'est-ce que tu veux nous dire pour conclure un petit peu ce petit podcast?
Non, bah déjà merci de m'avoir invité pour parler de Paul. C'est un coureur que je suis depuis quelques années. Donc moi je l'ai vu arriver en cyclocross et pour moi l'école de formation du cyclocross c'est une école qui est vraiment géniale. C'est comme si durant l'hiver vous venez suivre les crosses à pied. Vous imaginez que dans le tas il y aura toujours un coureur ou deux qui va sortir sur 3000 ou sur 5000. Un petit peu si l'hiver vous allez voir des joueurs faire du foot en salle, vous allez vous dire mais lui techniquement il est bon, il serait bon à mon avis durant la saison sur le terrain de foot. Le foot à 11, donc ouais, non, Paul, je lui souhaite le meilleur, et puis n'oubliez pas juste son âge. On peut pas demander toujours à un coureur de 19 ans d'avoir la même maturité. Ça reste une pépite, ça reste quelqu'un d'exceptionnel, et je veux juste prévenir tous les coureurs qui à 19 ans n'ont pas les mêmes résultats, n'ont pas les mêmes watts, n'ont pas les mêmes capacités, n'ont pas les mêmes dispositions que Paul Sexas. C'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes dispositions que vous n'êtes pas capable de faire carrière. Des garçons comme ça, il y en a qu'un tous les 50 ans. Chacun peut profiter de son niveau comme il a envie de le créer pour se faire plaisir. Et pour moi, la notion de plaisir aujourd'hui, elle est hyper importante à mettre en avant. On peut aller chercher des performances de très 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 haut niveau. On peut être ultra sérieux tout en étant quelqu'un qui profite de la vie et qui prend plaisir dans ce qu'il fait. Donc voilà, c'est tout le rôle d'avoir un bon entourage, d'être bien coaché, bien drivé pour pouvoir aller chercher cette notion de plaisir parce que c'est important.
Oui, c'est vrai qu'en plus, nous, on a un peu notre œil de français focus sur le Tour de France. Peut-être qu'on sous-estime un petit peu les classiques, ce genre de choses qui intéressent peut-être un peu moins le grand public et même gagner des sprints. Enfin, il y a tellement de choses pour faire une carrière de cycliste. C'est vrai que c'est pas parce qu'on n'est pas Paul Sexa, c'est qu'on n'a pas ses watts. T'as bien raison de le dire. Mais merci en tout cas, Steve. J'espère qu'on aura appris pas mal de choses aux gens et qu'on les a un petit peu tempérés, mais en même temps excités à la fois.
Exact.
Ben, on te retrouve donc dans ton super podcast tous les lundis. Et sur Eurosport, c'est quoi le prochain événement là? Ce week-end?
Ouais, ça enchaîne pas mal. Donc, il y a les championnats du monde de gravel qui se disputent samedi pour les filles, dimanche pour les élites garçons. Et puis ensuite, il y aura durant tous les week-ends de l'hiver les cyclocross. Donc, un coup ce sera moi, un coup ce sera Anthony Colas qui sera au commentaire. Et puis, oui, les différents podcasts Bac à sable. Et puis, merci encore une fois de m'avoir invité. C'était super sympa.
Avec grand plaisir. Merci à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo et on mettra le lien de Steve en bas en description. Merci à tous. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Attends, Steve.